On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
La différence avec la cuisine, c'est que quand tu as raté le suivet, tu le recommences. Tu attaques à 20 ans, tu finis à 60, 40 fois dans ta vie, tu fais du vin. En moyenne, tu te trompes pendant 20 fois ou 25 fois, tu le réussis 5 ou 6, et après, tu masques, ça va.
Arriver à prendre une grappe de raisin et te donner autant d'émotions quand tu bois un verre, il faut quand même avoir quelque chose que pour moi était inaccessible. Je pensais que je serais jamais capable de faire un truc pareil.
L'agriculture biologique, c'est super chouette. J'aimerais bien, moi, que dans, disons, 10, 15 ans, je sais pas, on parle plutôt d'agriculture chimique, tu vois, parce qu'on nous désigne. Ah, vous êtes en bio. Non, nous, on travaille normalement.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous entendiez un extrait de Wine Calling, Le vin se lève, c'est un documentaire signé Bruno Sauvard sur vos écrans de cinéma ce mercredi. Ce film raconte l'épopée à contre-courant et dans un esprit de contre-culture d'une poignée de vignerons du Sud-Ouest engagés dans le vin nature. Le mot est lâché, vin nature. Voilà un vin que tous les buveurs et les gourmets ont sur les lèvres et accessoirement dans leur verre en ce moment. Faut-il d'ailleurs l'appeler vin nature ou vin naturel, vin vivant, vin libre, vin sain? Dans tous les cas, on peut raisonnablement dire qu'il désigne un vin sans intrants chimiques, vinifié artisanalement par des vignerons respectueux de leur vigne et de leur sol. L'enjeu de cette émission, c'est de définir le vin nature, c'est de comprendre aussi l'énorme engouement qu'il provoque en France comme à l'étranger, et c'est aussi de s'interroger sur les habituels reproches qu'on adresse à ce vin, avec des remarques comme « Pouah, il y a plein de gaz dans ton vin » ou encore « Oh là là, ça sent le foutre de lièvre ». Autour de ce plateau ce dimanche, pour en parler et pour déguster, tout d'abord Justine Saint-Lô et Fleur Godard. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Le deuxième tome de Pur Jus est enfin arrivé, livré par les éditions Marabout. Je l'ai à mes côtés, c'est une bande dessinée drôle, poétique, très instructive qui raconte le travail d'une vingtaine de vignerons que vous appréciez. Autant vous dire qu'on a eu un gros coup de cœur dans l'émission. On l'a tous aimé, c'est pour ça que vous êtes là. Merci. Autour du plateau dont on va déguster. Justine pour les dessins, et quel dessin. Et Fleur pour les dialogues, un très beau travail à quatre mains. Votre premier opus portait sur le travail dans les vignes. Ce second tome s'intéresse à la vinification, la fabrication du vin en cave. Sylvie Augereau, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver, Sylvie. Vous venez avec plusieurs casquettes aujourd'hui. Vous êtes chroniqueuse régulière à ce micro. Vous êtes vigneronne entre Saumur et Angers. Vous avez été l'une des premières plumes engagées dans la défense des vins nature. Vous êtes aussi la fondatrice de la Dive Bouteille, le rendez-vous incontournable des vins nature. N'en jetez plus, merci d'être là.
J'ai l'impression d'être vieille.
Non, pas du tout. Non, vous respirez la fraîcheur, au contraire, Sylvie. Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur vin dans cette émission, fondateur d'une web télé qui fait pas mal parler d'elle en ce moment et qui aborde d'ailleurs toutes ces questions, notamment autour du vin nature. Ça s'appelle
Tellementsoif.tv.
Voilà, et en plus, vous traversez la France, vous allez au contact des vignerons de France et de Navarre avec un propos libre et transversal. Laurent Thomas réalise cette émission avec Maxime Ingrand à la technique, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet. Pour retrouver les références de nos coups de cœur liquides, car il va y en avoir dans cette émission, pour nos infos pratiques, pour le podcast de l'émission, filez sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
Juste avant de glouglouter ensemble, un petit mot sur un événement qui vous a peut-être échappé, la 5e journée nationale contre le gaspillage alimentaire, qui se déroule dans 2 jours, le mardi 16 octobre. À cette occasion, j'aimerais, au nom de toute l'équipe dont on va déguster, lancer un appel aux chefs étoilés, aux cuisiniers de la restauration collective, aux commerçants de bouche, aux gérants de supermarchés, bref, à tous ceux qui exercent des métiers de l'alimentation et qui sont souvent obligés, pour X raisons, et le plus souvent contre leur gré, de jeter des quantités immenses de nourriture chaque jour. Eh bien, j'encourage tous ces acteurs à prendre contact avec Linky, L-I-N-K-2-E. Vous en avez déjà entendu parler,
ouais, ouais.
Sylvie? Linky, c'est une start-up créée il y a 2 ans qui s'attaque au gaspillage en mettant en contact tous ces acteurs de l'alimentation qui ont des invendus sur les bras avec des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Linky s'appuie sur un constat simple et assez effrayant quand on y réfléchit bien, 10 millions de tonnes d'aliments destinés à la consommation sont perdus ou gaspillés chaque année en France. Et d'un autre côté, 5 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire dans nos pays. Linky propose une solution solidaire pour résoudre cette équation. Et ça marche. Grâce à 6 permanents, 600 bénévoles, Linky a déjà mis en place des passerelles entre une centaine de traiteurs, moyennes et grandes surfaces, festivals, événements qui ont des surplus alimentaires. Et les associations qui distribuent des repas, des vivres, des denrées, des produits de qualité à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Concrètement, une personne de Linky vient à vélo récupérer des invendus et les distribue aux associations qui, elles-mêmes, les distribuent à nouveau à ceux qui en ont besoin. Voilà, pour l'instant, ça se passe à Paris. Il y a des développements qui sont prévus en région. On salue cette initiative de grands chefs qui, d'ailleurs, la plupart du temps, veulent rester anonymes. Des marques de grande distribution entrent dans la danse, mais Linky a encore des besoins énormes et toutes les énergies sont évidemment les bienvenues. C'est souvent avec la somme de ces petits gestes qu'on arrive à faire de grandes choses. Toutes les infos sur Linky. Profitez-en et profitez de cette 5e journée nationale contre le gaspillage alimentaire pour faire un geste si vous êtes concerné. Et ces infos sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le vin nature en question, avec un S à question, juste après une petite dose d'afropunk garantie sans produits chimiques. Voodoo Game avec le titre Tata fatigué, il fait faim et il fait soif sur France Inter. Stéphane Morin, du domaine Léonine, Jean-François Nick, vigneron culte du domaine Les Foulards Rouges. Nous sommes dans le massif des Alberts, dans les Pyrénées, quand ces vignerons racontent les origines du vin nature.
Il y a eu pas mal de bouquins il y a 30-40 ans, avec Max Léglise, avec Jules Chauvet, Fonzi, Néoport, c'est tous ces mecs-là, qui ont inspiré la première génération de vin naturel, avec ça venait du Beaujolais, avec Lapierre, Auvernois, tous ces mecs-là, Castex quand même. C'est quand même des microbiologistes qui ont écrit ça, des gens pointus, scientifiques, et qui ont pu expliquer qu'on pouvait vinifier avec des levures indigènes, qu'on pouvait améliorer l'hygiène dans la cave en immertant les cuves, ou ceci, ou cela, enfin, je passe le détail. Mais ça me donnait un point de départ, si tu veux, à cette nouvelle génération de vignerons.
L'origine du vin nature, c'est le Beaujolais, avec Néoport et Jules Chauvet, qui étaient des œnologues pointus, quoi. Des mecs super pointus.
C'est un héritage qu'on a, voilà. Sincèrement, je le dis comme ça, et je peux pas le faire autrement. Je me nourris de... Je suis le vampire de plein de vignerons que j'aime en France, hein, et qui m'ont appris des trucs. Quand il y a un vigneron qui dit « Ah, moi, je fais ça, j'ai créé ça, je veux faire un truc comme ça », super, mais t'as appris avec qui en douille.
Pour faire court, les origines des vins nature, c'était dans les années 50-60, hein, dans le Beaujolais.
Ouais, 50.
Avec les expériences de Jules Chauvet, considéré aujourd'hui comme le papa des vins naturels.
Le papa, et surtout un grand, grand scientifique, enfin quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer.
Sylvie Augereau, absolument. Et c'était un extrait de Wine Calling, le vin se lève de Bruno Sauvard, sur nos écrans de cinéma ce mercredi. Dans quelques jours, qui a vu ce film, ce documentaire autour de la table?
Ouais, moi j'ai vu. Ils sont passés à la rue des Belles Caves.
Un petit mot, Justine Saint-Lô, sur ce film. Faut-il recommander à nos auditeurs d'y aller?
Dans notre contexte, c'était vraiment très très agréable parce que ils nous ont appelés, ils se sont liés un peu d'amitié avec François. Mm-hmm. Et nous, on avait très très envie de faire une porte ouverte aussi pour accueillir les voisins, parce qu'on vit dans un lieu collectif. On a fait cet événement ouverture de la rue des Belles Caves ainsi que la projection de Wine Calling. Mm-hmm. Ils ont été ravis d'être là. On a été ravis qu'ils soient là. Et ça permettait aussi à des gens, des voisins, de rentrer dans le monde du vin nature.
Est-ce que justement ce film, Sylvie Augereau, Wine Calling, permet de mieux comprendre la question des vins nature?
Ouais, moi je trouve que c'est l'énergie des vins nature. Et puis surtout, les vins nature, en fait, c'est les gens. C'est des implications, c'est des engagements. Là, on a affaire à des bons témoins. C'est de la solidarité, beaucoup, 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 parce qu'on apprend ces vins-là, justement. Pas vraiment dans les livres, comme le disait Stéphane Morin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des livres, et ça explique pas tout. On l'apprend vraiment des voisins, en goûtant, en échangeant les problèmes et les joies.
C'est vrai que ce film raconte presque une contre-culture, mais aussi une épopée sociale. Alors en l'occurrence, elle s'intéresse au sort de vignerons qui sont en Occitanie. Donc le réalisateur a choisi quand même géographiquement
il a trouvé un
vignoble. Voilà.
Et un bonnie là-bas.
Absolument. Il y a des énergies qui se libèrent dans un esprit festif, convivial. C'est aussi ça qui montre que les vins nature peut être une véritable hygiène de vie ou une philosophie, Fleur Godard.
Je crois qu'ils appellent ça le Jajakistan, là où ils sont.
Ouais,
c'est ça.
C'est un beau parallèle entre les musiques qu'ils écoutent et souvent qu'ils font et le caractère alternatif, toujours, malheureusement, comme le souligne un des vignerons qu'on a entendu dans l'extrait, de ces vins-là. Et c'est vrai qu'on attend le moment où on va plutôt pointer du doigt les gens qui font des choses chimiques. Après, c'est un très beau film parce qu'il a une espèce de grande fenêtre ouverte sur le quotidien de ces vignerons, dans des moments généralement festifs. Il y a aussi des côtés un peu plus durs.
Il y a des côtés un peu durs, ouais. C'est ça qui est intéressant.
Et voilà, c'est une grande bouffée d'humanité.
Mais ça montre surtout que ça fonctionne vraiment par nid, parce que c'est de la solidarité et parce qu'on échange les procédés, les problèmes. Il y a des nids, il y a des gros nids en Loire. Il y a le premier vrai nid, c'est dans le Beaujolais, Marcel Lapierre et compagnie.
Bien sûr.
Voilà. Et qui, c'est Marcel Lapierre qui a eu l'idée dès le départ, derrière Jules Chauvet et compagnie, qui a eu l'idée de travailler ensemble, d'avancer groupé, pour aussi regarder les microscopes ensemble, pouvoir s'offrir aussi des matériels qu'ils n'avaient pas, ou des conseils d'œnologues qu'ils n'avaient pas. Et savoir vraiment ce qui se passait dans leur vin, puisque leur vin était vivant et on ne leur en avait pas enlevé une once.
Alors le vin nature, venons-en précisément, les anglo-saxons parleraient de buzzword, c'est vraiment le mot à la mode, il est sur les cartes des restaurants, chez les cavistes, sur les réseaux sociaux, on n'en a jamais autant parlé, il y a ce film, évidemment il y a une littérature très abondante, pur jus de vous, Justine Saint-Lô et Fleur Godard, il est au cœur de cette émission, on va en parler, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres choses, Antoine Gerbel, vous avez apporté quelques livres.
Ah oui, j'ai Grandeur Nature, là chez Duno, de Malnic, il y a un tout petit bouquin qui est sympa, ça s'appelle Découverte des vins bio et nature, chez Actes Sud d'Olivier Lenaire, et puis il y a un très joli petit guide très sympa, alors là ils sont dedans depuis un bout de temps, c'est Antonin Yomi Amunategui.
Oui, c'est dur à prononcer.
Ouais. Journaliste.
Mais ça ne lui enlève pas de talent à ce journaliste.
Et son compère Jérémy Couston, tous les deux sont vraiment fans de vin nature, ils ont sorti le Glou Guide chez Cambour Rakis Édition.
150 vins naturels esquis à 15€ maxi. Antoine Gerbel, comment expliquez-vous que le vin nature soit à ce point au centre du jeu ou au centre de la table? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre rapport au vin?
Alors il y a déjà, bon, il faut soulever quand même l'immense paradoxe, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre vin nature ou naturel sur votre étiquette. Déjà, il y a un grand avocat, Maître Morin, qui suit tout ça de très bien, qu'on salue.
Très actif sur les réseaux
très
sociaux.
Très actif, et, non mais qui connaît très bien ça.
Et, dans le vignoble
et,
aussi.
Et il défend les vignerons souvent de la mouvance nature, donc le terme lui-même n'est pas encore autorisé. Donc,
on va essayer justement de
s'attarder un peu. Tous les gens qui sont dans cette tendance se posent la question, est-ce qu'il faut légiférer pour demander une définition européenne, parce que maintenant tout se fait à Bruxelles, sur ce qu'est un vin nature. Et alors là, déjà, ça commence très mal, puisque personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Il y a déjà ceux, on va dire, les historiques, qui vont dire, mais non, mais il faut que ça reste comme ça, sans garde-fou.
Alors, sans garde-fou. Une espèce d'esprit, de philosophie, alors, mais pas réglementé.
Sans garde-fou, jusqu'au point de dire, ou même pas utiliser des raisins bio pour faire du vin nature, ce que là, je trouve, moi, assez contradictoire, mais il y en a, puisqu'il y a des négociants dans la mouvance des vins nature qui achètent des raisins qui sont pas certifiés. Et puis après, voilà, ils ont pas envie de retomber dans les travers de ce qui a construit les appellations d'origine, leur rigidité, leur définition aujourd'hui, où maintenant on mesure plus la hauteur d'herbe que la qualité des raisins. Donc ils n'ont pas envie de retomber dans tout ça, et on les comprend. Mais il y a quand même un consommateur au bout de la chaîne, et le consommateur aujourd'hui, il entend tout et n'importe quoi. Pas tellement, on le rappelle, de la part des vignerons, mais surtout de la part des revendeurs. Aujourd'hui, pour vendre du vin, on cherche toujours une histoire. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire de la nature rousseauiste parfaite, ce raisin qui se transformerait sans rien faire en vin pur. Or, on sait très bien que la destination du raisin sans rien, c'est le vinaigre. C'est un travail énorme de faire des vins nature. Moi, je milite pour un cadre, parce que je pense que simplement, voilà, il ne faut pas trop perdre les gens dans la définition.
Il y a une tentative, justement, de définition. En mars dernier, celle-ci a échoué. C'est l'Association des vins nature qui réclamait un éclaircissement à l'usage du mot nature. Une amorce de définition proposait des critères comme il faut une certification bio obligatoire, il ne faut pas d'intrants chimiques, pas de filtration, etc. Malheureusement, cette discussion avec l'INAO, qui s'occupe des appellations d'origine protégée, a tourné au vinaigre, c'est le cas de le dire. En tous les cas, les ennemis du vin nature ou les sceptiques cherchent souvent à le décrédibiliser en qualifiant ce vin de vins qui sont faits par des gens qui ne savent pas faire du vin. On entend même vin de fainéants. Voici ce que Jean-François Nick des Foulards Rouges, Laurence Magnacrieff à Banyuls, mais également Stéphane Morin, trois vignerons protagonistes du film Wine Calling de Bruno Sauvard, disent à propos du vin nature.
Le vin nature, souvent on pense que c'est... Parce que nous on le dit aussi, on dit que c'est un vin de fainéant, parce qu'à partir du moment où on fait rien, tu vois, on n'utilise pas de produits, on filtre pas, on fait rien. Donc on dit, pour rigoler, on dit que c'est un vin de fainéant. Mais c'est faux, quoi.
Au contraire, il faut vraiment pas être fainéant. Moi c'était ma première leçon. Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel. Sur les finifications, c'est techniquement, il faut faire des analyses continuellement. En tout cas pour nous, faut déguster tout le temps, faut être hyper hyper présent.
Dans la mesure où tu fonctionnes sans filet, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de rien mettre quand tu mets tes raisins, il y a zéro sulfite, il y a zéro levure, il y a zéro rien. La dérive, elle est super rapide. On va mettre en place une autre façon de faire, des fermentations intracellulaires, des choses comme ça, qui sont pas forcément préconisées dans les vinifs traditionnels. Mais c'est pas une débilité, effectivement, il y a plus de risques. Par contre, après, tu peux avoir des vins aussi beaucoup plus frais, beaucoup plus légers, délicats que si tu fais une cuvée pigée remontée deux fois par jour, quoi. Voilà. C'est un choix.
Comme si en cave ou dans les vins nature on ne faisait rien, c'est sur ce présupposé que vous attaquez l'introduction de Pur Jus, Fleur Godard, l'album de bande dessinée que vous avez co-signé avec Justine Saint-Lô. Je vous lis, si la vinification naturelle tend au non-interventionnisme, l'absence de béquilles œnologiques exige un travail colossal.
Absolument phénoménal. C'est une attention, j'aime bien cette idée d'une présence bienveillante, permanente, parce que à partir du moment où on s'engage à accompagner un raisin vers son devenir vin sans y ajouter quoi que ce soit, ça suppose qu'on sera là à tout moment.
C'est presque plus dur à la limite de ne pas céder justement de ces béquilles chimiques.
C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Pour répondre à votre précédente question sur la législation, moi je pense que on est dans une société qui est en quête de sens. Il y a un vrai problème autour de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Le vin naturel, ça vient répondre à cette quête de sens en replaçant l'humain au centre de l'échange. Et précisément, une tentative de législation pour moi, à partir du moment où on a un label qui vient comme une gommette sur l'étiquette, en fait, c'est une récupération pour les lobbies, mais exactement comme on a eu pour le bio.
Est-ce que c'est pas aussi une façon de protéger cet esprit, ce style de vin, ces méthodes, que de l'encadrer réglementairement, puisque vin nature, par ailleurs, peut être utilisé peut-être à des fins commerciales par des vignerons qui n'en font pas
c'est
vraiment ça, de
problème.
Ce vin nature, Sylvie Aujourd'hui.
Oh, oui, c'est ça le problème, c'est que ce soit récupéré. C'est forcément ce qui va se passer, comme le bio a été récupéré aussi. Et les décrets, ils ont été un peu écrits par les gros.
Fleur Godard, votre définition du vin nature, cette définition qui d'ailleurs est en filigrane de tout le beau travail que vous avez fait dans cet album Pur Jus.
Nous, on sort de vin nature parce qu'on on comprend bien que pour certains, le vin nature, c'est avec un peu de sulfite autorisé. Enfin, c'est complètement OK d'en avoir avant la mise ou pendant la vinification. Pour nous, un vin nature, donc un vin pur jus, c'est un vin dans lequel on a zéro intrant, donc zéro soufre, zéro rien du tout, énormément de travail, d'attention, d'énergie.
Donc vous n'aimez pas en fait l'étiquette vin nature, vous préférez à la limite pur jus ou vin libre.
Voilà.
Vin libre de tout produit chimique.
On dit ça, comme, on les appelle les vins pur jus.
Bon, général. Question, le mot a été lâché, soufre. Venons-en à cette sulfureuse question, évidemment, du soufre. Faut-il en mettre ou pas? En général, les puristes disent qu'un vin nature doit se passer en totalité de
bah,
tout.
Faut que vous allez faire du vin, alors, les puristes.
Dioxyde de soufre.
Oui, il faut commencer par ça.
Allez, venez
par
faire
ça.
Du vin, les puristes.
Voilà. Chacun oui, son tour, mais parlons de cette question. On voit tout de suite, d'ailleurs, que les esprits s'échauffent. Antoine Gerbel, juste par pédagogie.
Non.
Le soufre, le rôle traditionnel du soufre dans la viticulture traditionnelle.
Je suis le plus vieux dégustateur autour de la table, donc j'ai connu les
excès. Vous en avez bu du soufre, c'est ça que vous voulez dire.
Exactement, et j'en ai dans ma cave des bouteilles pleines de soufre. Et il y en a qui sont catastrophiques, et il y en a aussi des très bonnes. Donc il faut pas raconter trop d'histoires. Quand un raisin est de très grande qualité, quand il y a une vraie viticulture, parce que tout part de là. Après, le soufre, mais généralement, les vignerons qui travaillent bien, ils en mettent pas beaucoup.
Rappelez-nous, s'il vous plaît, à quoi sert le soufre?
C'est une protection pour stopper le vin qui est aujourd'hui potentiellement mis en bouteille avec, il peut repartir en fermentation.
Il peut y avoir des
bactéries qui sont
pas antiseptiques, antioxydants.
C'est un antiseptique, voilà, très, très léger. Aujourd'hui, on met des doses. Les 400 mg qu'on a au maximum sur les vins liquoreux, ils existent quasiment plus. On est autour de 10 mg, souvent dans le monde du bio ou des natures. Bon, bah, ça se sent pas.
Non, mais au-delà des milligrammes, en fait, c'est autre chose. C'est vraiment un engagement. Et c'est vraiment aller jusqu'au bout de ses idées.
Mais ça veut dire quoi? Pourquoi vous voulez pas? Vous êtes allergique au soufre? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est malade avec le soufre? Parce que c'est ça
on
la question.
On en connaît, mais non.
Mais ça n'est pas une question
Mais moi, j'ai discuté avec des médecins, donc les doses sont bien élevées.
On soupçonne le soufre de donner mal à la tête. Hein. C'est souvent quelque chose qu'on entend et qui est quand même justifié médicalement.
En fait, le soufre empêche l'humain de digérer l'alcool. Voilà.
D'accord.
Mais bon, à certaines doses.
Ça bloque effectivement la digestion.
Moi, je préfère un gramme de soufre à un gramme de volatile.
Oui, mais c'est la gestion de la peur, c'est autre chose, en fait.
Volatile, en un mot, Sylvie Aujourd'hui.
Volatile, puisqu'on devait en parler, en fait, c'est le début du vinaigre. Ça peut être...
Petite piqûre acétique que l'on peut ressentir quand on goûte certains vins.
Voilà, qui peut être plus ou moins présente.
Mais qui pique pas sur la langue, hein, c'est
non,
au
ça
niveau
pas
aromatique.
Ça, c'est
ça, principalement.
Voilà, ça n'a rien à voir avec du gaz. C'est ce qui rejoint le vinaigre, voilà. Donc à certaines doses, ça peut être très gênant, puisqu'on n'a plus le vin, on a plutôt une idée de vinaigre. Alors c'est assez bizarre, parce que même sur des seuils non autorisés, on peut ne pas le sentir, bizarrement.
Oui.
Voilà.
La volatile, juste pour rebondir là-dessus, en 10 secondes, le plus grand vin du monde, soi-disant Cheval Blanc 47, je crois que c'était 1,35 g de volatile.
Oui, mais j'ai goûté, j'ai goûté
Cheval
Blanc
47. Oui, mais attends, juste aujourd'hui, pour les auditeurs, pour resituer les choses dans les limites de ce qui est autorisé, un vin à plus de 0,80 g de volatile n'est plus considéré comme un vin loyal et marchand. Donc on a quand même une différence aujourd'hui dans la
législation. Il n'y a aucun vigneron qui est fier de faire du vin avec de la volatile, il ne faut pas raconter de bêtises.
Un grand Barolo ou un grand Collioure sans volatile, il se traîne, c'est une flaque qui est allée sur le canapé.
Revenons-en, on s'égare dans des considérations assez techniques, même si elles sont très intéressantes.
Aucun vigneron n'a envie d'avoir de la volatile dans
ses vins. On risque de perdre quelques auditeurs. Revenons aux vignerons et vigneronnes, une vingtaine environ, chez lesquels vous êtes allés à la fois tendre votre micro, j'imagine, et activer vos crayons. Justine Saint-Lô, il y a des vignerons qui tolèrent une petite quantité homéopathique de soufre, entre guillemets, par sécurité.
Tous les vignerons qu'on est allés voir sont des vignerons qui produisent du vin pur jus. Il y a des gens comme Athénaïs de Beru, qui est encore dans une transition et qui dit... Voilà.
Moi, elle est en Bourgogne.
J'en suis, elle est à Béru, en Chablisien.
Oui.
Au stade où j'en suis, je suis pas capable de faire tout l'ensemble de ma production en pur jus. Donc, je fais une partie libre et une partie que je sulfite un tout petit peu. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça prouve, en fait, 5, 6, 10 ans plus tard, que les vins sans soufre, qui, en l'occurrence, sortant de chez elles, n'ont pas un gramme de volatile, ni de réduction, ni de quoi que ce soit, se tiennent très bien. Et que, par ailleurs, en fait, le soufre induit une limite. Et moi, c'est ça qui me gêne dans l'utilisation des sulfites. C'est qu'on va délimiter la zone aromatique dans laquelle va rester figé le vin.
Non, ça revient très vite.
Et c'est pour ça qu'on l'a mis.
Écoutez, les vignerons de wine calling, donc genre Loïc Court, tout ça, ils me disent nous, on nous appelle les moins le quart. Moins le quart, donc ça veut dire que t'es pas arrivé au bout, quoi. Et ces gens-là, enfin, franchement, je pense qu'ils ont des leçons à nous donner. Jean Frossanic, il le dit dans le film, il dit moi, je ne m'interdis pas de mettre un gramme si le vin en a besoin, un gramme, c'est rien. Et ouais, parce qu'il dit on est des gens libres.
Oui, mais c'est, on n'est pas du tout dans Justine le jugement, vraiment dans pur jus. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et si on a mis Athénaïs en premier aussi, c'est parce qu'en fait, elle est dans ce processus où elle se pose la question. Et c'est comme, par exemple, là, on peut avoir des fromages où on va essayer de faire du fromage sans ferment. Et puis, une année, ça va mal se passer. Et là, on va mettre des ferments. Et en fin de compte, on est plutôt dans cette démarche-là de dire le soufre.
Les ferments, c'est pire que le soufre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein.
Non, mais c'est juste c'était juste pour faire une comparaison.
C'est des ferments naturels.
Oui.
Et c'est ça qui fait l'expression du vin. Après, effectivement, le soufre peut venir un peu éteindre cette expression.
Mais momentanément.
Momentanément.
Quand les deux sont faites, c'est très momentané.
Mais non, mais alors, comment on explique que 10 ans plus tard, les deux vins ont des expressions totalement différentes? Moi, je suis désolée, j'ai absolument pas le même plaisir à 1,5 g à la mise. Hein.
Là, vous évoquez du soufre que l'on met lorsque l'on embouteille le vin, c'est ça?
C'est pas l'unique moment où on met du soufre.
Non.
Et c'est pas le plus intéressant parce que généralement, le vin a du mal à l'intégrer.
Ouais. Revenons en tout cas à Pur Jus, un livre qu'on a beaucoup aimé parce que c'est un roadbook, un reportage en dessin dans les coulisses de la vinification, une espèce en fait de making-of où l'on découvre le travail des vignerons dont vous appréciez le travail, dans le secret de leur cuve, dans le secret de leur cave. Et il y a quelque chose de particulièrement marquant, et là on s'entendra tous sur là-dessus, c'est la beauté, la poésie, la qualité, la sincérité des dessins de Justine Saint-Lô. Franchement,
ils sont émouvants ces dessins.
Ils sont émouvants.
Ça fait un peu trop.
J'ai presque envie de dire, vous nous avez apporté quelques planches originales. Est-ce que vous pouvez les sortir de votre pocket?
Puisque nous sommes à la télé.
Parce qu'on a ce sentiment d'avoir affaire, justement, pour utiliser une métaphore œnologique, d'avoir affaire à des dessins naturels.
Je peux vous expliquer un peu le processus, comment
évidemment
fonctionne avec Fleur. Donc souvent, Fleur a les contacts avec les vignerons, on va les voir, c'est des gens qui généralement, on connaît déjà, on les aime bien, parce qu'on n'est pas journaliste, mais c'est plus facile d'interviewer quand on connaît déjà les gens. Et puis là, on enregistre, on pose des questions, on revient avec ça, on a la retranscription entière que l'on envoie aux vignerons, qui nous valide ou qui corrige quelques mini-choses. Et dans cette masse, nous, on va arriver, on va tailler. On a en fait un petit combat entre Fleur et moi, Fleur qui est beaucoup sur plutôt tout ce qui est information technique, exactement.
Oui. On apprend ce que c'est qu'une macération carbonique, une fermentation malolactique, la volatile précisément, mais sans aucun mal de crâne en fait, puisque c'est une conversation avec des mots simples et on vous suit vraiment dans vos pérégrinations.
Voilà, et de ce discours direct, elle va faire ressortir des phrases. Moi je vais être là en train de dire plus de place pour le dessin, plus de place pour le dessin. Et puis dans ce texte qui fait un peu une demi-page, moi généralement, donc je travaille sur des formats A3, je ferme les yeux, je prends mon crayon papier, je trace une ligne un peu abstraite, je rouvre les yeux et là j'essaye de sortir une composition, donc des visages, des formes. Tout de suite je prends l'encre de Chine et ensuite l'aquarelle. Pourquoi? Parce que
ce que je disais, travail naturel.
Travail naturel parce que
travail d'artisan,
c'est du croquis.
Ou d'artisane.
Voilà, parce que moi j'aime mes journées au soleil avec un café en train de faire de la peinture. J'ai beaucoup d'affection pour les gens qui travaillent aussi sur ordinateur, mais c'était moins mon quotidien, ça appartenait moins à moi ce que j'avais envie de faire. Et en plus, je trouve que de par le discours direct, le fait qu'on ait vu les vignerons et puis cette méthode aquarelle et encre de Chine, ça fait croquis, ça fait vivant. Je me permets un peu tout et surtout j'essaye de me faire rire.
Il y a parfois des imperfections, on sent des nuances de couleurs dans les aquarelles. C'est vraiment un très très beau travail, totalement, naturel. Je trouve pas meilleur mot en quelque sorte.
Et ça fait aussi des pièces uniques parce que c'est quand même très différent de l'impression. Donc c'est un peu comme quand on amasse des photos de voyage sur son disque dur et qu'en fin de compte, on les regarde pas vraiment. Alors que quelques photos argentiques, on va les mettre plus en valeur.
J'ai sous les yeux, je crois le reconnaître, une très très belle aquarelle. Ça doit être votre frère,
oui.
Un peu chevelu, très barbu, qui s'appelle François Salot et qui est dans le Val de Loire, devant un pressoir dont on ignore l'âge, mais qui a l'air d'être très vieux et qui dit « Jusqu'ici, j'ai toujours fait mes vins avec le pressoir de l'ancienne cave. C'est hydraulique, manuel, vertical. Les jus sortent clairs du début à la fin. La cage du pressoir date d'avant la Révolution. Son système est plus récent. Des années 70 peut-être, c'est un pressoir avec lequel on fait de longs pressurages, 4 heures sans commencer à pomper, puis entre 10 heures et 24 heures, et nous avons le résultat dans une bouteille.
Tout à fait, en face de moi. Donc la parcelle s'appelle les Palaines, c'est du Cabernet Franc.
Oui.
Je vais vous laisser servir.
C'est quel millésime ?
2016.
On va le goûter tous ensemble.
Donc c'est un premier essai, parce qu'en fait, donc François, c'est heurté au refus de l'appellation, parce qu'en fait, au début, il s'est dit, bon, je suis dans le Saumurois, je vais essayer d'avoir l'appellation, et puis en fin de compte, une fois, deux fois, trois fois, il se fait renvoyer, voilà, bref, et il s'est dit, bon, bah, puisque c'est ça, moi, je vais faire donc une macération en grappe entière sur un Cabernet Franc, ce qui ne se fait pas normalement, puisque la rafle du Cabernet Franc est toujours généralement moins mûre.
Et elle peut apporter beaucoup de verdeur au vin.
Voilà, exactement. Ouais. Et François a décidé de faire ça. Voilà,
je remets la zizanie dans ce plateau. Souffre ou pas souffre ?
Il n'y a pas de souffre.
Alors, c'est parti. Votre frère n'a pas eu l'appellation Saumur, ce qui peut-être a rendu plus libre sa démarche. Je vous propose de trinquer.
Allez, moi ça me plaît.
Ce Cabernet Franc en grappe entière signé François Saint-Lô à Saumur. Alors,
mais c'est ce qu'on aime du Cabernet Franc, c'est ce côté vieux rose, vieille rose qui est assez joli, un peu pivoine aussi. Et c'est Aubert de Villaine, donc la Romanée Consti, qui disait justement que la rafle au vieillissement amène souvent ce côté rose.
Il peut y avoir un peu d'amertume, de verdeur végétale.
De végétale, ouais.
Bah justement, en fait, c'est souvent ce que mon frère dit, parce que nous, on vendange, là, ça a été 10 jours dans une cuve de 40 hectos.
Ah oui, c'est ça, c'est très court.
Et ensuite pressé. Mais par contre, ça a mis un an et demi à fermenter en cave troglodyte. Et François, en fait, parce qu'on faisait des travaux qu'il a fallu mettre en bouteille, mais sinon, il aurait laissé encore plus longtemps. Et ça, on met, en ce moment, tout va vite, tout va trop vite. Il faut laisser du temps au vin de digérer ses défauts, de vivre sa vie, de faire son adolescence.
C'est le problème des vins naturels aussi.
Et il faut donner une chance.
Longtemps se poser.
Voilà. C'est vrai, on voit des millésimes beaucoup trop jeunes aujourd'hui sur le marché.
Ben, on est obligé de vendre.
Et puis ces macérations courtes, elles ont un autre intérêt pour le sud, par exemple. Ça permet aux vignerons d'aller chercher un peu moins d'alcool, un peu moins de richesse dans cette famille. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt une tendance à apprécier un peu plus les vins nature du sud, parce qu'ils élèvent effectivement les vins en allégeant cette lourdeur, cette noirceur qu'on a dans les vins traditionnellement méditerranéens. Ils vont retrouver quelque chose de léger. Bon, on peut faire une émission sans citer Pfefferling, mais voilà. C'est l'exemple auquel on pense souvent.
Pfefferling, Eric, était pas éduqué, mais emmené au vin par Jean-François Nic.
Absolument. Et il commençait même par ne pas mettre de soufre, et puis il a fini par en mettre un tout petit
Moi,
peu.
Moi, j'ai vécu son premier millésime.
Oui. Oui. Est-ce que ce vin de François Saint-Lô se marierait bien avec une pintade très, très bien élevée? Fleur Godard nous a réservé une surprise. On la déguste juste après. Little Girl, un de Whistling Train de The Inspecteur Clouseau. Ils sont rockers et farmers dans les Landes. Écoutez.
Little girl wants to look around. Little girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day hanging around. Last day touching the ground. Today you got to remember.
just one ticket to pass around. Whistling sound.
Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster.
Celle-là, elle est plantée plein nord et elle est à 300 mètres d'altitude, c'est une des plus hautes de Bagnols. Mais c'est un terroir, si tu veux, de fait qu'il ne soit pas du tout mécanisable, s'il n'y avait pas eu la chimie il y a 50 ans, il n'y aurait plus de vigne ici, parce que le coût d'exploitation est tellement énorme, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc la chimie, ça, j'ai honte de dire ça, mais ça a sûrement sauvé le terroir. Et depuis qu'il y a de plus en plus de caves particulières ici, et puis qu'on s'est mis à faire du bio, c'est en train de changer tous les profils du terroir. Mais ça va être long. Même si ça n'arrive pas jusqu'aux natures. Mais déjà, tu vois, si ça arrive à passer en bio, c'est déjà énorme.
Vous êtes bien sur le plateau dont on va déguster en ce dimanche 14 octobre le vin nature en question. Et pendant ce disque, Sylvie Augereau, à ma gauche, me confiait qu'elle détestait cette expression de vin nature. Bah, fallait le dire plus tôt.
C'est pas ça. Mais on est obligé de trouver un mot.
Et vous préférez quoi?
Parce que la bouche pleine.
Parce que vous êtes en Trangée et Saumur en plus vigneronne.
Ouais.
Vous vous rangez pas dans la catégorie des vins nature.
Si, non, mais de toute façon, on est bien obligé de se mettre d'accord sur un mot. On le voit partout, nature.
C'est
partout,
vrai.
partout.
Un peu trop.
Vivant, c'est moi j'aime bien vivant, mais ça veut dire que les autres sont morts. Donc
mais c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal parce que il y a malheureusement beaucoup de vins morts aujourd'hui que je déguste, qui sont là, qui sont figés. Moi je dis momifiés. C'est vrai que dans cette famille de vins, on est complètement à l'opposé de ça.
Une cocotte magique vient d'enlever son couvercle et là ça embaume dans tout le studio dont on va déguster. C'est incroyable, Fleur Godard, cette pintade.
Cette pintade. Alors papa, il dit qu'elle a besoin de rien pour être délicieuse.
Et vous en avez apporté la preuve.
Moi, comme j'ai besoin encore de tuer le père, je lui mets toujours un petit coup de vin liquoreux sur le dos.
Mais c'est une très bonne idée. Alors rappelons quand même qui est votre papa. Il s'appelle Étienne Godard. Il est dans le Périgord. Il élève même très très bien des volailles. Il y a des poulets, etc. Mais il y a aussi cette espèce de volatile avec une chair assez corsée, voire parfois un peu sauvage ou giboyeuse, qui s'appelle la pintade.
Voilà, c'est une chair plus rouge, c'est un peu plus proche des origines africaines du poulet, si on doit faire un peu de...
C'est d'ailleurs un animal qui a des origines africaines.
Voilà, et du coup, oui, c'est plus rouge.
Un peu sanguin même.
Oui, absolument.
L'idée, c'est qu'on va les élever entre 110 et 150 jours. C'est une fourchette un peu large, mais c'est là qu'ils commencent finalement à avoir la fibre de la chair suffisamment longue et donc ferme et à pouvoir mettre des micro-infiltrations graisseuses, donc de la cellulite, soyons clairs, un petit peu partout dans les muscles, qui fait le goût, et ben c'est goûtu.
Mais où est-ce qu'on les trouve, ces volailles?
Papa vient tous les mois à Paris, il fait des marchés, on peut le retrouver sur son site, le calendrier.
D'accord.
Il y a également des bouchers géniaux comme Viande rue de l'Ancry, qui propose toujours les volailles toutes les semaines.
Toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Elle faisait combien cette bestiole en poids?
2,2 kg.
Alors pour 2,2 kg, vraiment en trois gestes, Fleur Godard, puisque là on est dans une volaille nature, dans une forme de simplicité. Une belle cocotte où elle a la place quand même de s'exprimer un peu, cette pintade. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Et ensuite, on met au four. Moi, je mets à four chaud. Je la laisse suer
matière
un
grasse
petit peu. Non, zéro.
Non.
Zéro. Alors, vraiment zéro matière grasse parce qu'elle est déjà truffée, en fait. Hein. Elle est complètement... elle en a mis partout. Je la laisse suer et je la retourne un petit peu pour dorer. En fait, ça dore le haut de cuisse. Je mets 20 minutes de chaque côté à 200 degrés avec le couvercle. Et ensuite, au bout de 40 minutes, donc au total, je mets un coup de vin sur le ventre.
Et en l'occurrence, un vin liquoreux.
Un vin liquoreux parce que ça marche bien. Et puis, c'est aussi le début de mon histoire dans le vin. Donc, c'est un petit clin d'œil.
D'accord.
Coucou, Château Massereau.
Le cidre aussi, ça marche bien.
Ça fait un jus stupéfiant. Hein. Franchement, c'est absolument épatant comme quoi. Et quelques haricots verts.
De chez Harald, un cheval, un champ. Ils sont juste à côté de chez François, au Puy Notre-Dame à Saumur.
Un maraîcher dans le Val-de-Loire. Antoine Gerbel.
Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il défie tous les accords mets et vins, puisque j'ai un verre de blanc, un verre de rouge en face de moi, mais ça fonctionne super bien. Parce que le côté un peu ferreux, on peut dire, de la volaille, fait écho à la fois sur le blanc, la matière vraiment un peu végétale du blanc, et puis enrobé par le rouge.
Eh bien justement, tentons un accord avec cette belle pintade, deux propositions radicalement opposées, et géographiquement, et chromatiquement évidemment. À ma gauche, il y a un rouge par Sylvie Augereau, à ma droite, un blanc de Antoine Gerbel. Commençons avec Antoine, votre vin blanc qui effectivement va très bien avec cette pintade.
Oh, c'est un clin d'œil à Sylvie aussi.
Écoutez, arrêtez.
Parce que j'ai pris un vin d'Anjou et surtout un clin d'œil aussi à nos deux créatrices de BD, puisque c'est un personnage qui apparaît dans une très belle BD qui a bien marché, qui s'appelle Les Ignorants, d'Avodo, qui raconte...
Et le personnage derrière le personnage.
Le personnage derrière le personnage, exactement.
T'aurais pu nous ramener du Richard Leroy. Quand même.
Voilà, donc voilà. Qui
vous
raconte l'histoire de Richard Leroy, mais ce n'est pas de Richard Leroy.
Vous faites allusion à un vigneron bien connu.
Voilà, c'est une cuvée de Bruno Rochard qu'on voit dans le livre. Bruno Rochard, c'est quelqu'un de très discret, beaucoup trop discret. J'ai vu arriver dans les dégustations quand j'étais à l'époque à la Revue du Vin de France, on voyait ses vins Moque-Souris, hein, c'était sa cuvée qui faisait parler un petit peu de lui. Et là, je vous ai amené François Régis, vous m'avez dit trouve-moi un vin mouvance nature, accessible, pas très cher et qui est assez bien diffusé.
Ouais, voilà.
Donc j'ai fait
le cahier des charges.
Je suis descendu à la cave de Reuilly à côté de chez moi. Je leur dis qu'est-ce que vous servez au verre dans cette famille-là. Il me dit ça, on adore. C'est Les Feuillettes 2017. C'est un chenin tout simple, mais quand je dis tout simple, c'est qu'il y a tout dedans. Il n'a pas besoin d'artifice. Il est pur. 2017, quand c'est réussi, c'est quand même un très beau jus, surtout en Anjou. C'est-à-dire que des fois, on a un peu de richesse. Là, on a ce côté souligné un peu de la sucrosité, mais qui est très, très digeste.
Petite sucrosité, mais
c'est ce qui va très bien, d'ailleurs, avec notre volaille.
Oui.
Ça peut aller aussi sur les poissons. Là, moi, j'imagine aussi très bien, en ce moment, les moules vont arriver. Les moules un peu au curry.
Elles sont déjà là, les moules.
Elles sont là. Et donc, on en va être vraiment dans cette, on cherche des blancs qui ont du corps, qui ont une histoire, et puis en même temps, qui restent super digestes. Les
Bravo.
Feuillettes 2017 de Bruno Rochard.
C'est chouette, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Fleur Godard?
C'est un très joli chenin, extrêmement limpide pour un vin naturel, il faut souligner. D'ailleurs, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire aux naturants, c'est que du coup, quand il n'y a pas de volatile, quand il n'y a pas de réduction et quand c'est limpide, les gens sont là, t'es sûr que c'est pur jus ça? Alors qu'en fait, c'est possible, quand on sait bien faire du vin, on y arrive.
Les natures puristes, en général, quand ils ont effectivement un verre de blanc, se flattent de la transformation de la couleur du blanc, ça a tendance à s'oxyder assez vite, ça devient un peu trouble. Celui-ci, votre chenin, effectivement, il est étonnamment cristallin.
Alors c'est maintenant, on en vient à douter quand les vins sont durs. Alors mon amoureux, Nicolas Roux, il fait du vin depuis qu'on s'est rencontrés. Il fait du vin sans soufre, tous ses rouges sans soufre depuis qu'on s'est rencontrés.
Oui.
Donc ça fait 10 ans. Alors on lui dit... En fait, il est vraiment très droit, on lui dit. Non, mais ça, c'est pas nature. Mais si, chouchou, c'est pur jus, comme disent les filles.
Vous êtes en train de dire qu'on peut ériger des défauts en qualité, en normes?
Là, on parle donc, pas la vogue, parce que c'est pas une vogue, les vins nature. C'est une vraie histoire, qui a quand même
ça,
30 balais. Hein.
Et puis qui est inscrit dans
le temps. Voilà, qui est inscrit dans le temps. Et surtout, c'est pas parce que Paris boit des vins comme ça que les gars, ils se font chier à faire des vins comme ça.
Bah non.
Ça vient de la volonté des vignerons. Parce que c'est beaucoup plus difficile à faire, comme on l'a dit, que des vins conventionnels où on va se coucher. Et ça vient des vignerons. Ça ne vient pas de la demande.
Justine Saint-Lô.
C'est l'offre.
Ouais, c'est avant tout des vins de personnalité. C'est des gens qui se disent, je ne fais pas des choses pour plaire, je fais des choses pour moi, parce que ça me donne du sens à moi. Et il y a forcément des gens à qui ça va parler. C'est ça, la passion.
Oui, mais il y a aussi une envie de faire plaisir à des buveurs ou à d'autres.
Évidemment.
C'est la convivialité,
tout le monde,
ouais.
Évidemment, tout ça en convivialité, mais je veux dire dans l'intention.
Et puis, à la limite, on peut dire que c'est une philosophie qui dépasse le verre. Ça convoque des considérations écologiques qui vont bien au-delà de la vinification. Oui. Le travail en vigne, on n'en a pas parlé, évidemment, mais il s'agit là d'être le plus naturel possible en respectant les sols.
Minimum bio.
Minimum bio, minimum, évidemment. Autre accord, on l'a promis, pour cette pintade, un petit coup de cœur, signé Sylvie Augereau.
Ben, de toute façon, j'étais un peu obligée de l'amener. Hein. Michel Gramenon, domaine Gramenon, moi je l'appelle Michel Gramenon, c'est trop long. Michel Aubéry-Laurent.
Oui.
Au lieu dit Gramenon, au domaine Gramenon, dans le Rhône, un petit peu au nord du Rhône. Elle était obligée de venir avec nous parce que c'est la papesse du vin nature, voilà.
Et en plus,
tous les petits branleurs qui vont nous faire des leçons sur les vins nature, eh ben, elle va les moucher.
C'est-à-dire
voilà. Eh ben, elle va les moucher rien qu'en faisant goûter ces vins, voilà. Alors là, on a 1,5 g, mais après Malo, ce qui est pas tout à fait le même que
après la fermentation malolactique
parce que le grenache est très sensible à la fermentation malolactique. Michel, elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Et elle est donc à 1,5 g là-dessus. Il y a 2 cuvées qui se permet un peu pour elle, par amour, de faire sans soufre. Mais elle ne s'interdit pas. Elle dit que de toute façon, le sans soufre, c'est un idéal, mais c'est pas un absolu. Faire un vin pur, c'est... D'ailleurs, elle emploie le mot de pureté, ouais. Elle dit que c'est plus important de faire un vin pur qu'un vin sans soufre.
Et c'est 9 euros, la poignée de raisin, ça faut quand même le préciser, de 100% super. Grenache. Voilà. On est du côté de Valréas.
Ouais,
hein.
C'est un des meilleurs rapports qui a été pris du monde.
Dans la vallée du Rhône.
Du monde.
Et des environs. Bonjour à Michel Aubéry, évidemment. Autre reproche qu'on adresse traditionnellement au vin nature, ça en général, ça vient de gens... qui sont pas tout à fait habitués à ces vins, ils disent « Oh là là, c'est gazeux, c'est perlant, ça repart en fermentation dans la bouteille, Fleur Godard, il y a
un quiproquo. » Le gaz carbonique, produit naturel de la fermentation, les levures mangent des sucres, ce faisant, elles produisent du gaz, c'est comme nous quand on mange, hein, voilà, on digère, on pète. Donc ce phénomène naturel, on va décider de garder plus ou moins de gaz au moment de la mise en bouteille. Beaucoup de vignerons vont dégazer parce qu'il y en a trop et que pour des raisons X, Y, il a fait froid, etc. Le vin est encore très très chargé. Ça va avoir tendance à inhiber un petit peu le vin dans son côté aromatique et justement à choquer un peu les consommateurs. On en laisse toujours un peu parce qu'en fait, il vient protéger le vin.
C'est un conservateur naturel ?
Voilà, c'est un conservateur naturel qui va protéger naturellement.
Donc c'est pas du tout une histoire de fermentation qui repart dans la bouteille ?
Absolument pas. En fait, un vigneron qui va embouteiller un vin dans lequel il reste du sucre résiduel, bah, il a une drôle d'idée. Parce que clairement, il reste plein de levure, donc comme son vin est vivant, forcément, fatalement, il y a un moment où il va repartir. Donc, en fait, un vigneron qui est raisonnable et qui n'est pas trop pressé par des problématiques d'argent et d'urgence bancaire va laisser le temps au temps, laisser son vin finir tranquillement de manger ses sucres. Ça va prendre 1, 2, 3, 5 ans. Et au bout de ce temps-là, mettre en bouteille avec un tout petit peu de gaz qu'on va pouvoir très facilement retirer si ça gêne au moment de la dégustation. Moi j'aime bien parce que c'est un peu le vin qui me fait coucou, je suis vivant, regarde, il va se passer quelque chose.
C'est tonique quelquefois.
Oui, il faut rappeler aussi que c'est très technique, c'est-à-dire que ça peut masquer aussi des choses et que l'équilibre aussi, il y a certains vins à la première gorgée, effectivement, ils vous font coucou, mais à la deuxième gorgée, ils font adieu parce qu'ils sont trop lourds et que le gaz carbonique peut masquer aussi des choses.
C'est-à-dire
que c'est encore une fois, il n'y a pas de voix parfaite, c'est bien le gaz carbonique parce que ça évite de mettre trop de soufre, ça c'est intéressant, mais il faut aussi qu'il laisse vraiment exprimer le vin.
Quand on ramène une bouteille naturelle, nature à la maison, qu'on a acheté chez un bon caviste et qu'on a cette sensation justement un peu pétillante ou perlante, vous parliez de vous débarrasser de ce gaz qui peut éventuellement gêner, comment on s'y prend ?
On peut carafer très simplement, on n'est pas obligé de secouer la bouteille en mettant son pouce dedans comme font beaucoup de gens dans le 11e arrondissement de Paris.
Oui, mais bon,
de manière un peu
moi je le fais aussi à la maison, j'avoue.
Voilà, c'est un côté fun, mais ça peut froisser certains vins qui sont délicats et qui vont se mettre en boule.
D'accord,
et je comprends, enfin moi si j'étais un vin, j'aurais pas très envie qu'on me fasse faire le grand 8 juste avant de devoir faire une conférence.
Une carafe,
à
c'est bien la carafe aussi. C'est
mais
bon,
voilà,
c'est
la carafe.
Objet.
Moi, le problème,
c'est
que je trouve que
doux,
ça, ce secouage de la bouteille, ça peut faire un peu champion de Formule 1 avec un mauvais champagne sur le podium.
Faut pas que ce soit du rouge.
C'est ça. Petit coup de cœur de Fleur Godard, vous nous l'aviez promis. Évidemment, elle fait partie des portraits que vous croquez avec les dessins de Justine Saint-Lô. Et d'ailleurs, elle n'est pas en France. C'est une des rares vigneronnes du livre ou vigneron qui sort de nos frontières.
Alors, on a toujours mis avec Justine dans le pur jus viticulture et dans celui-ci qui parle de vinification, on a toujours fait un petit saut de puce ailleurs, juste pour pas rester sur le cocorico franco-français, parce que on n'a pas du tout le monopole du vin naturel en France. Il y a des gens qui font des choses formidables partout dans le monde, et c'est important de le rappeler. Donc ici, on est sur les hauteurs de Ségovie, dans une région qui s'appelle la Castille et León.
Oui, avec l'accent.
Et une vigneronne une vigneronne formidable, épatante. C'est vraiment une héroïne complètement époustouflante de courage et d'aplomb. Elle s'appelle Esmeralda Garcia.
Un beau nom.
Elle travaille sur des sols sableux. Donc le phylloxera n'est pas une menace pour elle. Ses vignes ont une moyenne de 220 ans d'âge.
Ah, c'est quand même. Les grenages de Mémé de Michel Aubery dans la vallée du Rhône, ils sont tout jeunes à côté. C'est 120 ans à peu près pour la cuvée
115
Mémé. 115.
Et ce que j'adore chez Esmeralda, c'est qu'elle va proposer un parcellaire sur 6 cuvées différentes. Elle met à chaque fois en photo sur l'étiquette la granulométrie du sable. Mm-hmm. Et on goûte le vin et on a la texture du sable dans la bouche. Mm. Pas pour dire qu'on mange du sable parce que c'est pas du tout agréable, mais simplement qu'on va avoir quelque chose de plus ou moins rugueux ou en tout cas un petit peu rustique. Et on va arriver sur une texture beaucoup plus soyeuse et fluide
c'est
et délicieuse.
Bon ça, hein.
Là, c'est un cépage qu'on appelle le Berdejo, et j'ai réussi à le dire.
C'est très étonnant, parce que tu t'attends pas du tout à cette bouche-là. Le nez est solaire, et paf, tout à coup, t'as du nerf en bouche.
Berdejo, il y a toujours des notes un petit peu vertes, un peu d'olive verte, toujours dans les arômes. C'est un très très joli vin. C'est vraiment une ode au sable, effectivement, qui donne des choses très délicates. Puis rappeler que l'Espagne produit aussi des grands vins blancs.
Des magnifiques vins blancs.
On imagine toujours un peu très épaulé et très riche, mais là, c'est très digeste.
Et surtout, je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans ces vins-là, c'est qu'il contredit en fait toutes les caricatures qu'on se fait des vins blancs nature. À savoir, il ne devient pas marron en 3 minutes 30, il va rester ouvert 3 semaines à la maison dans le frigo, si j'arrive à ne pas tout boire. Et j'aurai toujours cette même fraîcheur. Il n'y a pas du tout d'oxydation. Il n'y a pas de souris. En gros, il y a...
La souris, en un mot, c'est un arôme souvent qu'on reproche à des vins nature.
Voilà. Disons que ça ne vient pas sur une zone particulière de la langue. C'est un petit peu dans tout le palais. On a ce goût de pâte sablée, carton mouillé, beurre de cacahuète. J'ai tendance à dire que c'est une espèce de dépression d'origine inconnue du vin pour l'instant. Il y a malheureusement pas suffisamment
d'argent mystère
pour subventionner la recherche sur ce point précis. Il y a plein d'hypothèses, il y a plein de gens qui travaillent dessus dans leur coin, mais il n'y a pas encore de réponse catégorique.
Mais surtout, c'est réversible, voilà, contrairement à la volatilité.
Moi j'ai eu un coup de souris,
on mettait en bouteille à la main et on buvait au goulot, tellement c'était bon. Un mois après, mais intorchable. Et j'osais plus le toucher. Et c'est revenu 3 mois après.
Il était disparu. Nous, une mise en bouteille souris. Et puis...
Les vins vivants sont parfois difficiles à dompter. C'est certainement une bonne nouvelle. C'est bien les cheveux qui dépassent aussi. Ça fait du bien. Un dernier coup de cœur avant de se quitter. Justine Saint-Lô, vous nous avez apporté plein de choses à déguster. Parce que vous vivez dans un contexte agricole tout à fait fécond.
Donc voilà, nous on s'est installé dans un petit hameau qui était un petit peu délaissé. Donc évidemment, il y a des anciens qui y habitent encore, mais il y avait énormément de bâtisses à rénover, de troglodytes à...
Près de Saumur. Dans le village de Berry.
On est une bande de copains, donc j'ai emmené du pain fait à la main, et puis des petites conserves de légumes d'été dans l'huile. Et je me suis permise aussi d'apporter un fromage d'autres amis à nous qui habitent dans les Pyrénées, qui font du fromage de brebis. Donc c'est Claire et Pierre qui sont à l'entrée de la vallée d'Ossau. Donc voilà, je vous laisse déguster, j'en ai coupé un petit peu. Claire, elle traie 200 brebis à la main, matin et soir, ce qui représente donc 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et en fait, elle, ça lui permet d'avoir vraiment un contact avec le vivant et de trier les laits, c'est-à-dire elle voit si le lait ce jour-là est bon ou pas. Elle a différents seaux, elle trie. Et évidemment, son compagnon Pierre fait le foin et toute la nourriture pour les brebis. C'est un endroit où j'ai été, mais c'est extraordinaire. On a toutes les fleurs de la montagne qui explose.
Et puis une profondeur en bouche et une longueur stupéfiante.
Exceptionnelle. Donc,
vous nous rappelez juste le nom, le fromage de brebis, la tome de brebis
La tome de brebis de Claire Saporta et Pierre Salle.
Voilà. Un grand merci. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. On vous recommande chaleureusement la lecture de Pur Jus. le tome consacré à la vinification, Vive les vins libres, signé Justine Saint-Lô pour ses dessins tout en sensibilité et Fleur Godard pour les dialogues aux éditions Marabout. Merci beaucoup à toutes les deux. Le 15 novembre prochain sera aussi publié le traité de jajalogie, expliqué par l'excellent Pierrick Jégu et publié par l'équipe de 180 et 12 degrés 5 et évidemment Sylvie Augereau. Tout sur le vin, une somme incroyable pour laquelle vous reviendrez dont on va déguster.
Une somme, ça, pas c'est une si grosse somme que ça. Ah, pas
une encyclopédie
cher,
visuelle.
Hein.
Une encyclopédie visuelle vraiment incroyable aux éditions.
Aux éditions Tana. Et ça sort le 8 novembre. Et c'est génial.
Et c'est vraiment.
Vraiment, je redis rarement que je.
C'est un livre qui explique le vin.
Pour ceux qui le boivent, pour ceux qui le comprennent pas forcément. Et c'est très. C'est joyeux, didactique, c'est joli.
J'ai vraiment adoré, mais on aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, la leçon de cuisine d'un chef pas toujours très connu du grand public, mais considéré comme un génie vivant par ses pairs, Jacques Maximin. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.